France Musique.
Belle journée à vous, Karine Lebaille, et à très bientôt.
France Musique.
Je m'arrête sur ça. Ouais. Allez, je prends le Siegfried.
Ah,
Bayreuth.
Oui.
Ouais, c'est incroyable parce que moi, qui adore Wagner, qui adore le répertoire allemand, jamais je n'aurais même pas pu imaginer qu'un jour Bayreuth fasse appel à moi et me demande de venir interpréter quelque chose à Bayreuth, dans le temple wagnérien. Donc je suis ravi parce qu'on m'avait proposé du Wagner déjà. Il y a 20 ans, on m'a proposé la version de Tannhäuser en français. Et c'était une bonne idée, mais c'était vraiment un peu tôt.
Ça donne un peu le trac ?
On a toujours le trac. Quand on est un artiste, on a toujours le trac. Même en faisant votre interview, j'ai le trac.
Mais si, c'est bon.
Alors je fais des bêtises, je dis des bêtises, parce que comme ça, c'est ce que je fais aussi à l'opéra. Avant de chanter, je dis plein de bêtises. Et pendant l'opéra, j'en fais.
C'est toi qui seras toujours mon seul amour.
Bonjour à toutes et à tous. Après une série de représentations brillantes du Cid, l'opéra de Jules Massenet au Palais Garnier, Roberto Aragna va retrouver dans quelques jours un plateau qu'il connaît bien, celui de la Bastille. Événement et nouveau rôle très attendu, celui de Lancelot dans l'ouvrage d'Ernest Chausson, Le Roi Artus. Alors vous le savez, le ténor français est un passionné de disques, un vrai discophile. Il a forgé son goût et son éducation musicale en écoutant depuis ses toutes jeunes années les voix qui ont fait l'histoire de l'opéra. Il y a très longtemps que j'avais envie de l'amener avec moi dans les travées de la discothèque de Radio France. Eh bien, rendez-vous fut pris il y a quelques semaines. Et voici cet après-midi sur France Musique un numéro exceptionnel de l'ère des lieux. Numéro que vous pourrez prolonger à la toute fin de cette émission avec un film en ligne sur le site de France Musique et sur celui également de Radio Vinyle. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 17h.
Oh, what an elegant room!
Well, it's not Buckingham Palace, but it's Wilson's little castle.
Eh ben ça tourne.
Oh, c'est génial.
Roberto Aragna, on est dans les archives de la discothèque de Radio France. Alors j'ai retenu les chiffres, il y a 450 000 vinyles ici et 70 000 78 tours. Il y en a un tout petit peu plus que chez vous.
Non, un petit peu moins. Parce que moi j'ai 400 000 copies de mon premier disque chez Barclay que j'ai racheté pour que ça ne soit pas diffusé. Donc juste de mon simple 45 tours, j'ai déjà plus que vos 33 tours.
C'était quoi ce 45 tours ?
C'était Embrasse-moi.
Et pourquoi vous l'avez racheté ?
Parce que j'avais honte de ce disque.
Mais pourquoi ?
Et parce qu'en bout d'une semaine, il était déjà premier au hit parade de l'époque. Donc je me suis dit, mince, ça risque de marcher. Donc j'ai tout racheté, je me suis ruiné. J'ai fait un crédit à l'époque avec un ami à moi, Angelo Feola. Et on a racheté toutes les copies pour le détruire.
Ah donc voilà pourquoi.
Et aujourd'hui, c'est très difficile à retrouver. Mais certains de mes fans l'ont.
Ça ressemble à quoi cette chanson ?
Je vais vous dire les paroles, vous allez comprendre pourquoi je l'ai détruit. Je suis celui qui t'a promis un paradis à l'infini, embrasse-moi, laisse-toi faire, enfin voilà, tout ça.
Et la musique ?
Non, la musique, c'était un peu un truc genre chanson à la Mac Brandt, comme ça, c'était une chanson à voix, mais c'était en plein disco. Mais grâce à cette honte de ce disque, c'est ça qui m'a donné l'envie de bifurquer complètement à l'opéra. Voilà, je me suis dit, bon ben, c'est trop tard, maintenant c'est disco, le seul endroit où je peux chanter avec de vrais musiciens, sans amplification, rien, c'est l'opéra. J'y vais, je fonce.
Et à l'époque, vous aviez signé pour plusieurs disques comme ça ou c'était
J'avais un contrat chez Barclay pour 5 ans. Et quand je lui ai demandé de casser le contrat, il m'a regardé avec des yeux en me disant « Mais tu te rends compte, je suis Eddie Barclay. Les gens pleurent pour avoir un contrat avec moi. » Et moi, il m'a dit « Mais pourquoi tu veux casser ?» Je dis « Je veux faire de l'opéra. » Il m'a dit « Mais t'es fou. » Voilà, donc c'était ça, c'est un peu drôle. Et puis j'ai réussi quand même j'ai été bloqué quand même 3 ans. Donc il restait encore 2 ans à faire. Parce que j'ai enregistré ce disque avant de partir à l'armée, j'avais 18 ans, et on a sorti le disque une fois que je suis revenu de l'armée, donc où j'en avais 20.
Il faudrait en sortir, ça serait bien qu'on l'entende.
Non, ça me ferait sourire, c'est vrai, mais à l'époque, voilà.
L'ore bella per danzare che in amor non mancherà. Già la luna è mezzo al mare.
mia si salverà. Presto in danza, tondo, tondo, donne mie, venite qua. Un garzon bello e giocondo a ciascuna toccherà. Finché il ciel brilla una stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna è bel col mare. Mamma mia si salverà. Finché, 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 mamma mia si salverà. Finché, 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 mamma mia si salverà. La 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 la
Allez, venez, on va alors découvrir des choses un peu différentes à mon avis. Hein. Je vous propose qu'on aille dans une des multiples travées ici, donc de ces archives de la discothèque de Radio France. On va se balader tout simplement et puis D'accord. regarder un peu ce qu'il y a, s'il y a des choses, des titres, des œuvres, des qui vous interpellent.
Alors,
par contre,
je voudrais vous féliciter parce que vous avez moins de disques que moi, mais ils sont mieux rangés.
Allez-y. Alors, on fait un petit tour. Sympa. On regarde au hasard. On regarde des choses.
Ouais. Tiens, ah bah, c'est allez. Dingue. Le premier.
Othello.
Othello.
Tiens, comme par hasard.
C'est... Ah, mais c'est un signe.
C'est lequel celui-ci ?
Il va falloir que je chante le rôle.
C'est pas déjà fait,
non ? Oui, c'est fait. Ah, ça, c'est génial. James McCracken. Et c'est drôle parce que la première fois que mon prof, donc Raphaël Ruiz, m'a parlé d'Othello, il m'a parlé de James McCracken parce qu'il l'avait entendu au théâtre des Champs-Élysées. Et il m'avait dit : j'ai jamais entendu une voix aussi large. Et c'était James McCracken. Donc vous voyez, c'est un double signe.
Et pas mal les autres chanteurs quand
oui,
même.
Oui, Gwyneth Jones, Fischer Dickau.
Ouais. Et John Barbirolli qui dirige.
Ah bah super, voilà, ça c'est à la grande époque.
Tiens, au hasard quand même, je m'arrête sur ça. Ouais. Allez, je vais prendre le Siegfried.
Ah,
Bayreuth.
Oui, au hasard. Ça c'est génial. Mais pourquoi
Mais pourquoi Mais enfin.
Oui, Bayreuth, hein, ça c'est incroyable parce que moi, qui adore Wagner, qui adore le répertoire allemand, jamais je n'aurais même pas pu imaginer qu'un jour Bayreuth fasse appel à moi et me demande de venir interpréter quelque chose à Bayreuth, dans le temple wagnérien. Donc je suis ravi, parce qu'on m'avait proposé du Wagner déjà. Il y a 20 ans, on m'a proposé John Mordler. John Mordler, qui était le directeur de Monte Carlo, m'avait proposé la version de Tannhäuser en français. Et c'était une bonne idée, mais c'était vraiment un peu tôt.
Il y a quelques noms qui sont pas mal. Hein. Là, on est à Bayreuth voilà. En 58.
Bah, Wingassen, qui a été un grand Siegfried. Brunhild Astrid Warnet, tout le monde connaît. Bien sûr, Hans Sauter, qui avait une force incroyable.
Et ça veut dire que tous ces vieux enregistrements, enfin vous disiez tout à l'heure, j'ai presque plus de disques qu'ici dans les archives de la discothèque de Radio France. Non mais vous continuez d'écouter beaucoup encore les disques.
Oui, mais aujourd'hui j'écoute beaucoup plus sur YouTube, c'est dommage parce que moi j'adore le disque. Alors c'est vrai que j'en ai beaucoup. À une certaine époque, j'adorais, lorsque j'allais à New York, j'allais à Tower Records, je revenais avec une valise de disques, partout où j'allais dans le monde, je rachetais des disques. Je me souviens au Brésil, j'avais acheté tous les enregistrements de Gomez. Voilà. Mais YouTube, c'est fantastique parce qu'on trouve tout. Je me dis souvent, moi qui ai surtout appris en écoutant des enregistrements, en chantant, en pouvant analyser jusqu'à plus soif, si j'avais eu un instrument comme YouTube lorsque j'étais étudiant, je serais peut-être devenu un grand chanteur.
Ouais. Non, mais ça veut dire que toute votre culture aussi vocale et musicale, vous la faites par le disque, par tous ces disques-là ?
Oui, par l'opéra en général, parce que je vais vous dire une chose, que même ma culture, littéraire, etc., vient de l'opéra. Aujourd'hui, même l'histoire, puisque l'opéra vous emmène dans tout. Donc ça devient une sorte de culture universelle. C'est vrai que je me suis enrichi beaucoup plus depuis que je fais de l'opéra que ce que j'ai étudié à l'école ou ailleurs. Donc ça m'a enrichi énormément et je remercie cet art qui m'a comblé, qui m'a fait grandir, qui m'a donné aussi une certaine sûreté. Parce qu'enfant timide, on a peur même de prendre la parole en classe. Et depuis, je parle.
Et lui, tenez, et lui.
Ah, bon, ça, c'est génial. Ah là là, si j'avais eu ça adolescent, mais ça aurait été le plus beau cadeau de ma vie. Ça, c'était comme voir
l'intégrale de tous les, ouais. On va dire quoi, 45 tours d'Elvis Presley.
Ouais, tous les 45 tous les tours. Moi, j'en avais beaucoup. Hein. J'avais quasiment tout parce que j'achetais ça. J'achetais ça au plus, moi. Ouais, c'est génial. Voilà. That's alright, mama, that's alright. Ça, c'est son premier disque. Ça, c'est génial. Well, that's alright, mama, that's alright with you. That's alright, mama, just any way you do. That's alright, that's alright. It is alright, that's alright, mama, any way you do. Il y a une sorte de studio, comme ça, où on peut payer, faire son propre 45 tours. Et il va là, et il fait un cadeau à sa mère, cadeau d'anniversaire. Et il chante « That's alright, mama ». Une semaine après,
Le mec est connu dans toute l'Amérique. Il devient premier au top et puis il reste là et puis il devient le king.
Pour moi, qui adorait l'opéra, donc moi j'avais découvert d'abord Mario Lanza et tout ça, et ensuite Elvis Presley. Et pour moi, Elvis Presley, c'était Mario Lanza dans le rock. C'était exactement la même technique. Baritonale, un peu comme ça, avec un son un peu gonflé. Tu vois, il reste ce truc-là que Mario Lanza avait aussi. Donc voilà, donc tout se rejoignait. I'm leaving town, baby. I'm leaving town for sure. Well, then you won't be bothered with me hanging on your door, but that's all right. Adoré les belles voix, voilà, les voix chaudes, les voix rondes. Et Elvis, quand il chante même des fois des trucs napolitains, c'est oui. Extraordinaire. It's now or never, torna soriento, à sa façon. Il a même chanté Santa Lucia. Vous l'avez écouté, Santa Lucia?
Non.
Chanté par lui?
Non, je
ne
connais
pas.
C'est
super beau, il faut l'écouter. Et ça, alors?
Et ça? Ah, ben voilà.
Voilà. Nerone de Boito. Donc, ça aussi, alors là, je voudrais en parler.
Oui.
Ah, j'ai chanté, moi, avec Lajos Miller. On avait fait Traviata. Enfin, j'étais tout jeune.
C'est qui?
C'est un baryton. Ouais. Un baryton qui avait une voix ténorisante. Et donc, Boito, pourquoi? Parce que, déjà, le librettiste, mm-hmm. formidable, mm-hmm. hein, le musicien. Donc, on s'en rend compte que Verdi savait s'entourer. Hein, il a choisi quand même un des meilleurs librettistes de sa génération, qui était aussi musicien, qui a fait des œuvres sublimes. Le Nerone est très, très beau. Mais le plus beau, vous savez lequel c'est? C'est celui d'Anton Rubinstein. Mm. Qui est sublime, qui avait composé le démon, qui avait tout ça. Et en plus, la particularité du Néron de Rubinstein, c'est qu'il est composé en français. Et j'aimerais bien le faire un jour, j'ai la partition.
Avant de s'installer dans les petits fauteuils, on va juste regarder quelques disques qui sont là.
D'accord.
Il y a certains qui doivent vous évoquer pas mal de choses.
Ah oui, oui, oui.
Voilà. À gauche, par exemple.
Ben, le roi Artus, voilà. Donc là, je suis ravi parce que c'est une œuvre que je découvre, je ne connaissais pas bien. J'avais écouté cette œuvre lorsque j'étais plus jeune et je n'arrivais pas à aller au bout de cette œuvre.
Pourquoi?
Je la trouvais ennuyeuse. Ennuyeuse. Et j'étais déçu parce que j'adore les histoires de chevaliers de la table ronde, Lancelot, Genièvre, Artus. J'adore cette histoire, j'ai toujours adoré ça. Je me souviens, moi, de Lancelot avec Robert Taylor, les films. Donc, j'étais vraiment déçu le jour où j'ai découvert cette œuvre. Et jamais je n'aurais pensé le chanter un jour. Et c'est vrai que c'est ça, la magie de la musique. Ici, ce qui est incroyable de chez Chausson, c'est qu'on sent que c'est pas... le génie spontané d'un Mozart ou d'un Verdi qui ont l'inspiration divine ou un Wagner. Non, on sent que le type construit. Et là, il se dit, tiens, cette phrase, ça ressemble trop à Wagner, donc je vais faire une altération là. Et on tombe amoureux de cette œuvre qui est une œuvre un peu unique quelque part. C'est le Tristan, une tierce au-dessus, avec des altérations qui font que d'un coup, on n'est plus dedans, mais on retrouve. Et en même temps, il a son propre univers. Voilà, donc je suis ravi de le faire. Et c'est un gros travail, hein. C'est un gros travail parce que c'est vraiment une œuvre pas facile. Et je vais tenter de le faire à Paris.
Et alors c'est émouvant en plus, parce que vous allez le faire avec Philippe avec Jordan, fils, avec le fils d'Amélie. Et Sermine Jordan qui a gravé cette belle intégrale.
Voilà, très très belle intégrale. Très belle. J'ai une petite critique quand même à faire, parce que maintenant que je me plonge dans la partition, je trouve qu'ici Armin Jordan est un peu lent. Un peu lent, donc je pense qu'il a fait ça parce que c'était un enregistrement et qu'il a voulu installer quelque chose comme ça de noble. Donc j'espère que son fils, qui est plus jeune, peut-être plus moderne, aura une vision un peu plus rapide de cette œuvre. Ici, je pense que c'était à cause de ça, parce que c'est la seule version que je connaissais au départ. Il y a un côté léthargique qui s'étend. Alors, c'est très beau dans le son, c'est très beau.
Ça crée un climat en même temps.
Voilà, ça crée un climat. Mais je pense que l'œuvre y gagnerait à avoir de petits élans de temps en temps, un peu plus de fulgurance. Voilà. C'est ma seule critique, mais je le dis parce que je suis honnête. Ferval, tiens, ça c'est drôle. Ça.
Alors
Pourquoi vous avez mis ça?
Il faut demander à l'équipe qui a préparé son
Non, mais c'est incroyable parce qu'on m'a proposé, je devais le faire à Montpellier. René Koering m'avait proposé cette œuvre, et donc j'ai étudié la partition et j'ai dit, mais c'est trop grave. L'œuvre était trop grave. J'ai dit, c'est un peu grave pour moi. Et en réalité, j'aurais pu le chanter. Mais je trouvais que c'était dommage parce qu'on allait aussi, encore une fois, dans une couleur wagnérienne. Et je lui avais dit, mais alors pourquoi on ne ferait pas plutôt Sigur? Et je sais qu'il avait prévu Ferval. Donc j'ai laissé tomber le Ferval. Mais c'est vrai, je l'ai travaillé. C'est curieux, voilà. Mais c'est une belle œuvre qui ne se joue plus. Et c'est dommage, mais c'est une belle œuvre aussi dans la veine wagnérienne, voilà, mais qui était un peu grave pour le rôle du ténor.
Mais c'est tout un pan du répertoire qu'on ne connaît vraiment plus. Enfin, vous citez Sigur.
Moi, je connais. Ça
se chante plus dans son intégralité aujourd'hui.
Oui,
sur scène,
c'est dommage. Il y a une œuvre, par exemple, qui vaudrait peut-être la peine d'être étudiée. C'est le Vercingétorix de Canteloube. Donc, Till avait chanté ça. C'est lui qui a créé ça. Et c'est une œuvre très difficile où il y a même des ut dièses, des trucs comme ça. Donc on se demande qu'est-ce qu'il voulait exactement comme voix, parce qu'il l'a fait pour Georges Till, qui lui était capable de faire ça. Mais en même temps, il y a une couleur quelque part presque wagnérienne, Strauss, dedans. Donc, qui aujourd'hui pourrait défendre ce genre de répertoire? J'en sais rien. Et en même temps, je me dis que des gens comme Till, avec cette voix claire, cette voix vraiment ténor à 100%, eh bien, était capable de chanter aussi bien Vercingétorix que Lohengrin, que le répertoire wagnérien, mais aussi la Damnation de Faust ou tout le répertoire italien. Donc je pense que la réalité, elle est là. C'est dans la simplicité et dans la couleur de ténor. C'est-à-dire que si on veut dénaturer, on n'arrive plus à chanter ce répertoire. Et je crois qu'il faut garder la couleur ténorisante, claire et limpide. Ça veut dire simple, sans exagérer le médium, sans exagérer le grave, mais en gardant la particularité du ténor qui est d'avoir une voix lyrique et ensuite de s'épanouir dans l'aigu, mais sans exagération.
Très bien, c'est très bien. Ah. Mais un peu trop vite.
Un peu trop vite?
Oui, il faut être un tout petit peu plus large.
Plus large?
Et ce n'est pas la peine, passons aux trois. Si vous permettez, je vais me mettre au piano.
Et le cœur soigné, écrit des prénoms de ma mère, et que...
blessé.
Moi, bon, ça, je connais bien. Oui, Luis Mariano, le grand Luis. Bon, ben, Luis, il était formidable. C'est un phénomène à part, Luis. Il a créé un genre. On parlait tout à l'heure d'Elvis Presley, qui a créé un genre. Et ben lui, il a créé un style aussi. Il a créé l'opérette. Comment dire, on avait Léard, on avait Offenbach, on avait tous ces gens-là. Et Lopez Mariano, ils ont créé aussi un genre qui existe aujourd'hui. C'est quelque chose qui leur appartient. Voilà. Après, il y a la voix hors norme de Mariano, qui est une voix quand même assez spéciale, c'est-à-dire très faible dans le centre. Donc c'est pour ça que ça aurait été difficile pour lui l'opéra, parce que de pouvoir soutenir cette puissance ou une ligne pleine dans tout le médium, ça aurait été difficile pour lui. Donc il a trouvé la combine. Il avait des aigus extraordinaires. Il s'est dit, voilà, dans l'aigu, on va s'envoler. Et puis dans le centre, je vais chanter genre un peu musical, variété. Et il a inventé. Donc souvent, quand on entend La Belle de Cadix, dans le centre, c'est presque parler, c'est presque chanter comme une chansonnette. Et puis d'un coup, ça s'envole comme un vrai ténor d'opéra. Et c'est ça qui fait la difficulté pour les autres de chanter du Mariano. C'est que c'est du sur-mesure, c'est presque de l'inchantable.
La Belle de Cadix a les yeux langoureux. La Belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. Juanito de Cristobal, tu le diez son rival, tu a los les lunes. Et Pedro le matador, tu le méprises à cordonner sa fortune. Malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de l'amant.
Chica, 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 aïe, 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 chica, 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 aïe, 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 chica. Aïe, 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 ne veut pas de nama.
La belle de Cadix est partie un beau jour. La belle de Cadix est partie sans retour. Elle a dansé une vie dans le monde, une bruit, toutes les séguinillas. Et par un beau clair matin, elle a pris le chemin qui mêlait à sa santé. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. La belle de Cadix est entrée au couvent.
Tika tika tik, aïe aïe aïe, tika tika tik, aïe aïe aïe, tika tika tik, aïe aïe aïe.
C'est un numéro exceptionnel de L'Air des Lieux cet après-midi sur France Musique. Nous sommes en compagnie de Roberto Alagna dans les travées de la discothèque de Radio France. C'est aux portes de Paris et c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Alors le ténor français en a fait son miel, vous l'entendez, livré déjà à quelques-unes de ses autres passions à côté de l'opéra. Elvis Presley tout à l'heure, Luis Mariano à l'instant et cette Belle de Cadix signée Francis Lopez. Restez à l'écoute, on rejoint tout de suite Roberto Alagna, bien calé dans un fauteuil. À ses pieds, il y a une grande boîte pleine de disques vinyles et vous allez l'entendre aussi quelques jolies surprises.
France Musique.
On ouvre la caisse ?
Allez, on ouvre. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Wow ! Oh, c'est super !
Il y a pas mal de choses.
Ah, ça, c'est génial. Mais enfin, vous me connaissez un peu, hein, vous me connaissez un peu parce que choisir Gardel, c'est que vous me connaissez. Voilà, Gardel, j'adore. Ouais. Gardel, c'est... Vous savez que Gardel adorait l'opéra ? Il allait au Met étudier Caruso, c'est quand même assez incroyable, hein, pour pouvoir chanter, pour s'en inspirer, pour sa technique vocale. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, il n'y avait pas encore les micros, les amplifications. Les types étaient obligés de projeter leur voix quand ils chantaient dans des théâtres ou dans des salles. Donc, il fallait savoir chanter. Et ces types-là allaient écouter les grands maîtres. Donc, très grand respect pour Gardel.
On l'écoute un peu ?
Ah ouais, ouais, j'adore. C'est extraordinaire. Puis Buenos Aires. Ah, ça, j'adore.
Tenés un arte pa' engrupir a los varones, que hasta un chico los huevosos le sacaste buen batín. Y hasta has hecho de un campeón remallado, un michijato londerado que te da lo que te di. Con esa quencha, ¿por qué no haces un tratado? La moderna cachadora o la forma de engrupir. Cachadora.
Oh.
Cuando te encanas a un coso, ni por verbo se te enfienta. Atorrenta, enganchadora. Recorriste poco tiempo de botón a comisario.
C'est quel genre de sensation et d'émotion? Je me sens assez super ému.
Ah oui, oui, parce que là, il y a tout. Il y a tout ce que j'ai cherché toute ma vie. Le but à atteindre et que je n'arrive pas à atteindre.
C'est-à-dire?
La simplicité. C'est le truc le plus dur à atteindre, à trouver. La simplicité. Il n'y a rien. Il y a une guitare. Le type est là, précis. Les attaques. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de. Il grossit rien. Tout est. Tout coule de source et pourtant la voix est placée. Le type a une vraie technique de chant avec appuyé sur le diaphragme. Avec le, il a une technique bel cantiste. C'est super. Et puis bon, la musique. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré le tango. D'ailleurs, ma fille Malène, elle s'appelle Malène à cause d'un tango. Voilà, Malène canta el tango. Malène canta el tango, como ningún. J'adore cette chanson et j'ai appelé ma fille comme ça, Malène, parce que j'aime ce tango. J'aime ses voix comme ça placées, j'aime cette atmosphère. Encore une fois, la prise de son formidable qui, avec ce filtre, crée une atmosphère qu'on ne pourrait pas reproduire aujourd'hui. Ouais. Voilà, j'adore tout ça.
On continue ?
On continue.
Alors,
qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bah bravo. Bravo ! Oh là, mais vous êtes incroyable, on en a parlé tout à l'heure. Alors, on a là deux choses. Hein. Ça, c'est des signes, hein. Pardon. Hein. Moi, je crois au destin.
Qu'est-ce que c'est ?
Bah, parce qu'on a Caruso. Enrico Caruso qui chante Écho lointain de ma jeunesse, donc l'air que je viens d'enregistrer dans mon disque, oui. De Tchaïkovski en français. Mais derrière, on en parlait tout à l'heure, on a le Néron de Rubinstein. C'est quand même assez incroyable ça, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc je ne savais pas qu'il avait enregistré les deux en même temps, puisque c'est sur le même disque.
Vous voulez l'écouter un peu?
Ah, je veux bien. Vous voulez mettre quoi?
Ce que voulez-vous?
Ben, mettons le Onieguin. Ça aussi, hein, c'est comme Carlos Gardel, il y a la magie. Ça commence par la même chose. Sans le récitatif. Il n'avait pas fait le récitatif.
Là aussi, il y a le naturel, la simplicité que vous disiez tout à l'heure.
C'est moins naturel, c'est-à-dire que là, on sent qu'il crée quelque chose. Et on sent qu'il cherche tout le temps, Caruso. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc il roule l'air, comme oui. On le fait à l'époque, mais on sent déjà la modernité dans son inconscient. Oui. Parce qu'il essaie de faire un air à la française, dans la deuxième phrase. Donc, mais il se rend compte que ça va dans la gorge. Donc, il continue avec son air roulé. Mais il a fait une petite tentative. C'est curieux, il voulait se rapprocher du français qu'il avait certainement entendu parler par des Français. Mmh. Voilà. Mais ce qui est beau chez lui, c'est qu'il a une voix qui est instrumentale. C'est curieux hein, pour un ténor. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas la vocalité de la déclamation. Tous, nous cherchons à rendre la prosodie, comment dire, presque proche du parler, de la déclamation d'un acteur de théâtre ou d'un comédien. Lui se rapproche plus du côté instrumental, violoncelle, il veut toujours lier, et d'ailleurs il fait des ports de voix que seul Caruso peut faire. Si on fait la même chose dans cet air, on n'est pas dans le style. Mais lui, chez lui, ça marche. Parce que, voilà ça, là. Il joue exactement comme les violonistes de l'époque, avec ce glissando permanent.
Roberto et glissando.
Roberto et glissando, voilà, formidable. Ouais, ça c'était beau.
Joli.
Blasphème.
Joli.
Sur Caruso, c'est que t'es horrible. Tu veux faire un glissando là.
Allez, on continue un peu. Tiens, Caruso, toujours lui.
Bon, on va passer à un autre. Hein.
Oui.
Sicile. Oh, ça c'est génial. Oh là là. Un disque sicilien de musique and song. Qu'est-ce qu'il chante là-dedans? Stornello di Catania. C'est génial tout ça. Et ce qui est curieux souvent, c'est que le répertoire sicilien me rappelle le répertoire russe. Il y a une sorte
d'exubérance, dans la joie, mais qui est toujours empreinte d'une certaine mélancolie. Et c'est ce qu'on retrouve chez les Russes aussi. Et d'ailleurs, chez Bellini aussi. Et quand on entend, je ne sais pas, on a l'impression que c'est un répertoire russe, alors que c'est du Bellini. Dans l'Orma, dans son âme. On entend ça, et moi j'entends quelque chose de l'âme russe là-dedans. Donc voilà, et j'aime la Sicile pour ça, parce qu'il y a tous ces sentiments nobles, forts comme ça, ces prières, ces tarentelles qui sont souvent le paradoxe total. C'est-à-dire qu'on a une mélodie avec une tristesse incroyable, ou alors la dérision. Parler de la mort sur une tarentelle. Voilà, c'est ce qui fait le peuple sicilien, et c'est un peu ce que je suis aussi. C'est peut-être ça, le romantisme.
Pour moi, ce jour est tout mystère. Le noir destin semble se taire. Ce jour me cache-t-il la mort? Serais-je le vainqueur, le fort, la vie ou bien la délivrance, le livre du destin toujours d'avance, règle tous nos jours, les jours de paix et de souffrance, bénis. Espoir, béni le doux sommeil du soir. Au ciel bleu, l'aube vient éclore pour annoncer un jour joyeux. Et moi, peut-être, à l'aurore. Dans le tombeau mystérieux du rêve, cher à tout poète, j'aurai toujours la douce fête sur moi. L'oubli mettra sa fleur, mais toi.
Écho lointain, écho de ma jeunesse.
Ah, Rosa Poncel.
Ah.
Waouh. Alors voilà.
Rosa Poncel, c'est Caruso au féminin. Parce que c'est une soprano d'origine napolitaine, donc mais née aux États-Unis. Pourquoi c'est important, Rosa Poncel? Eh bien, Maria Callas, c'est ça qu'elle a écouté.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire que quand on écoute Poncel, on a l'impression que Callas a apporté quelque chose, qu'elle a renouvelé complètement l'émission vocale, la couleur vocale. Ben, écoutons Rosa Poncel et vous allez entendre la Callas.
Qu'est-ce qu'on écoute?
La Vestale. Cherubini.
Spontini, c'est le répertoire que Callas a chanté et a repris.
Callas, oui, oui. C'est superbe, hein, Spontini, bien sûr.
Mais on imagine le choc des gens qui ont entendu ça à l'époque, parce que personne d'autre ne chantait comme elle.
Bien sûr, et c'est devenu le phénomène vocal au Met.
Elle chantait
et
tout.
Elle a tout chanté, elle a même chanté Carmen. Elle a même chanté Carmen, elle chantait. Ouais. Donc c'est la Callas de son époque. Mmh. Et c'est là qu'on a vraiment l'impression d'un mimétisme incroyable. Que les grandes divas se rejoignent hein, quelque part.
C'est une affaire de timbre aussi.
Aussi. Oui, mais enfin, là, il y a plus que le timbre. Hein. C'est plus que le timbre, je trouve. Bon, laissons Callas à Callas et Poncel à Poncel.
Alors, il faut faire stop.
Mais c'est vrai qu'il y a des... Dans les timbres, souvent, il y a des choses assez incroyables. Quand on écoute... Léo Slezak,
oui.
Le ténor hongrois. Quand on écoute le début de carrière de Slezak, donc les mélodies chantées au piano par Slezak, allez les écouter sur YouTube si vous ne les trouvez pas ici, c'est exactement Gilli. C'est-à-dire que si quelqu'un qui connaît vraiment bien Gilli, on met ça sans dire que c'est Slezak, on dit qui c'est, il va vous dire c'est Gilli. Et pourtant c'est Slezak. Et Slezak, c'est pareil, c'est l'époque Caruso. Donc, c'est un peu avant Gilli. Donc, est-ce que Gilli, là, n'aurait pas aussi pioché quelque part, quelque chose? Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'il l'a entendu? J'en sais rien. Ou alors, c'est que vraiment, il y a quelque chose de divin, on se passe le flambeau.
Et alors, vous, du coup, avoir écouté tous ces grands ténors quand vous étiez jeune, il y avait la tentation de copier?
Ah, moi, j'ai copié tout le monde.
De temps en temps.
Ah, bah, bien sûr. C'était mon école. C'est mon école. C'est-à-dire que j'ai pioché chez tout le monde. Moi, j'avais une technique qui a fait ma technique. C'est que je faisais comme vous, je mettais un disque, je chantais en même temps et j'enregistrais les deux. Et ensuite, j'écoutais. Voilà. Et là, je me rendais compte, ah bah tiens, là, j'ai couvert un peu trop tôt. Là, j'ai ouvert trop tard. Là, j'ai fait ci, ça, c'était pas bon. Là, c'était pas assez soutenu. Ici, ça vibre. Ici, ça fait ça. C'est comme ça que j'ai travaillé sur tous les chanteurs, mais pas seulement les ténors. J'ai fait ça avec des sopranos, j'ai fait ça avec des basses, j'ai fait ça avec des barytons, j'ai fait ça avec tout le monde. J'ai fait ça avec Presley, j'ai fait avec tout le monde. Donc, ce qui fait que, quelque part, j'ai fait un travail inconsciemment, une gymnastique, un exercice vocal qui m'a permis ensuite de trouver ma propre voix. Ah, Escalais, ça, c'est superbe aussi, ça. Alors, voilà, ça, c'était un ténor, Escalais, qui a été le fameux ténor héroïque à la française. En fait, il était haut comme ça. Et donc, à mon avis, son larynx, il devait avoir un larynx d'enfant, d'adolescent, dû à sa morphologie. Et il pouvait faire des contrutes, mais d'une puissance incroyable et d'une facilité incroyable.
Est-ce qu'on pourrait écouter Jérusalem ?
Oui, Jérusalem, super.
Jérusalem.
Léonce, voilà. Léonce Antoine Escalais. Oh là là. Oui, un mercredi. Couverture sublime. Prenez des respirations comme on voulait, ça c'était très bien. C'est les versions françaises des Lombards.
Que vous avez enregistrées ?
Oui, les deux. Je vais vous dire pourquoi je l'ai enregistré. Il en fait un deuxième à la fin. Qui est écrit, hein. Contruite. Pas mal. Voilà, c'est superbe. Là, à l'époque, donc, le pont est coupé, et c'est magnifique de Verdi. Donc ici, mais c'était dû à la cire, parce qu'il n'y avait pas assez de cire, et donc il fallait absolument que ça rentre dans les deux minutes ou quelques, je ne sais pas combien. Voilà, donc ils étaient obligés de couper. Et j'ai enregistré cet air grâce à Léonce Escalais. C'est-à-dire que je ne connaissais pas ce ténor, et c'est Jean-Marie Poilvé qui m'en a parlé, mon premier agent. Oui. Et il m'a dit, ah, il faut que tu écoutes l'air des Lombards avec Escalais, il fait un contrute. Et lui, il pensait que c'était l'air des Lombards. Il ne savait pas que c'était Jérusalem, la version française des Lombards, de Verdi. Et donc, il m'a fait écouter ça et je suis tombé amoureux. Donc, je commençais à chanter l'air des Lombards comme Escalais. Sauf que l'air des Lombards, c'est un demi-ton au-dessus. En fait, celui-ci est plus bas. Et donc, j'allais sur un ut dièse. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable la facilité. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, la version de Jérusalem est plus basse pour pouvoir faire justement cet aigu. Et je l'ai enregistré après avec Abado et le Berliner.
L'émir auprès de lui m'appelle. Que dois-je craindre encore ? Que la France bannit captif au sein d'une ville infidèle. Je ne pourrai combattre dans mon zèle pour les ingrats qui m'ont injustement puni. Hélène est près de moi.
briserai ma chaîne, je briserai ma chaîne, je
un dernier, rapidement.
Oui.
Un tout dernier. Il faut choisir.
D'accord. Ouais, ça, tout ça, on a un peu la même chose. Bon, on va parler de Vezzani, allez. Allez, César Vezzani. Et on parle que de ténor, ici. C'est quand même assez incroyable.
C'est bizarre.
Voilà. Donc, César Vezzani, Corse. Une force incroyable. Ce type-là a chanté tout le répertoire avec une bravoure, un héroïsme incroyable. Donc, la voix... L'aigu est incroyable, mais il n'est pas d'une beauté exceptionnelle. Il y a une sorte de petit hennissement, oh, c'est dur ce que je veux dire, je vais me faire taper dessus, dans l'aigu. Mais il est d'une bravoure incroyable. Après, pourquoi ce ténor n'a pas fait une carrière? Il ne chantait pas à l'Opéra de Paris, il ne chantait pas à l'Opéra Comique. Il chantait en province, beaucoup. Alors on dit que c'est parce qu'il voulait rester avec les siens, il se sentait à l'aise, il n'était pas... J'y crois pas trop, je ne sais pas ce qui se passait. Alors... Comment c'était exactement vrai? Est-ce qu'il avait des lacunes solfégiques? Je ne pense pas, parce qu'il a vraiment un phrasé comme il faut, c'est toujours très juste. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce ténor? Est-ce qu'il n'était pas un peu mafieux, corse, et donc un peu mis à l'écart? Est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes? Je ne sais pas, c'est un mystère pour moi.
pourquoi Luccioni chantait à l'Opéra Comique alors que c'est dans la même veine, et pourquoi pas lui. Et il a gardé sa voix jusqu'à la fin, et il y a un témoignage très très émouvant. Il est sur son lit de mort, il va mourir quelques jours plus tard, et il chante un chant corse, le bandit corse, comme ça, malade et quasiment paralysé.
Moi,
j'écoute
encore aujourd'hui.
Oui,
dire.
J'écoute Vezzani et j'ai des souvenirs qui me reviennent avec Tiber Raffali. Vous vous souvenez de Tiber Raffali, ce ténor? On a démarré, quand j'ai démarré à Glyndebourne, il chantait aussi avec moi Alfredo. Et j'entends l'accent corse, la façon de dire les mots. Tiber, c'est un peu ça aussi. Donc voilà, j'ai tous ces souvenirs qui reviennent. Je me souviens aussi d'un ami aussi qui est disparu aujourd'hui, qui avait connu Vezzani et qui me disait, tu sais que Vezzani, on ne sait pas s'il avait fait de la prison ou quoi, il avait deux tatouages comme ça, il avait des yeux de biche. Personne ne le sait, ça. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement avec ce type-là, parce que la voix est extraordinaire, d'une vaillance hors du commun. Et pourtant, il n'a pas fait une carrière, il n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire. Voilà.
Merci, Roberto.
Merci à vous.
Le ciel pâlit devant l'aube nouvelle, la sombre nuit s'évanouit.
Super, Martin. Et la justesse.
Encore un jour qui nuit.
Voilà, c'est ça le petit hennissement dont je parlais. Il y a un petit hennissement chevalin qui est peut-être joué.
Puisque la mort me fuit, pourquoi n'irai-je pas vers elle ?
C'est marrant cette liaison là. On ne fait plus aujourd'hui. Salut à tous.
Salut au mon dernier matin. J'arrive sans terreur au terme du voyage et je suis avec ce breuvage le seul maître de mon avec ce breuvage, le seul maître. passé. Oh, tout peut essayer, qui tant de fois fut pleine, pourquoi trembles-tu dans ma main? Pourquoi trembles-tu dans ma main?
Avec l'orchestre de l'Opéra de Paris et Henri Busser à la baguette. C'était ce ténor dont Roberto Aragna brossait en quelques mots tout à l'heure le portrait, César Vezzani, disparu en 1951, une grande voix, large et exceptionnelle tessiture, et pour ce Faust de Gounod, du coffre et du style. Et c'est avec lui, avec César Vezzani, que l'on referme ce numéro de L'Air des Lieux, et que l'on quitte les trésors de la discothèque de Radio France. À partir de samedi prochain, le 16 mai, Roberto Aragna sera sur la scène de l'Opéra Bastille pour chanter le rôle de Lancelot dans une nouvelle production du Roi Artus d'Ernest Chausson. C'est un événement, c'est une entrée au répertoire de l'Opéra de Paris. Et l'affiche est magnifique, il y aura aux côtés du ténor français, entre autres, Sophie Koch et l'Américain Thomas Sampson dans le rôle titre. Philippe Jordan sera à la baguette et France Musique enregistre, bien sûr, diffusion prévue le 6 juin. C'est Swat Bocorsa qui a réalisé cette émission. Un grand merci à elle, à Delphine Baudet qui était avec nous pour le mixage. Et puis un très grand merci, bien sûr, à toute l'équipe de la discothèque de Radio France, à celle des nouveaux médias. Le film, la vidéo de cette rencontre est à présent en ligne sur francemusique.fr et sur radiovinyle.radiofrance.fr. À bientôt.